Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Rav Ishay Asayag.
Traité Yebamot, page 38, DAF Lamed Het.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Yebamot Lamed Het. La Gemara continue de nous ramener d'autres cas où il y a des discussions sur l'héritage. Ça fait qu'il y a Yavam, ça fait qu'un enfant dont on ne sait pas qui est le père, est-ce que c'est le défunt ou est-ce que c'est le Yavam. Et le Yavam lui-même qui vient de se partager les biens du grand-père, c'est-à-dire le père de celui qui est mort et du Yavam. Le Safek dit, moi je suis le fils du défunt, et donc moi j'ai 50% de l'héritage. Lui, Yavam lui dit, tu es mon fils à moi, et donc tu n'as rien du tout dans l'héritage. La moine amotale le Safek, il partage l'égalité. Si le Safek et les enfants du Yavam viennent partager les biens du grand-père, le Safek dit, moi je suis le fils du Yavam, et donc je suis le fils du défunt, et donc je suis le fils de cette personne, donc 50% des biens. Et eux lui disent, non, tu n'es que notre frère, donc tu n'as qu'un tiers de ces biens-là. Alors la moitié revient aux enfants, puisque sur cette moitié il est d'accord. Un tiers revient au Safek, parce qu'eux sont d'accord. Et sur le dernier sixième, ils partagent l'égalité. Si on a le grand-père et le Yavam qui viennent se partager les biens du Safek, ou alors le grand-père et le Safek qui viennent se partager le Yavam, là ça sera la main à l'hôtel de Safek, et ils partageront à égalité. La Mishnah nous enseigne, une femme qui est en stand-by de Yiboum, qui a eu des biens, mais tout le monde est d'accord qu'elle en fait ce qu'elle veut, elle peut les vendre, et elle a le droit de le faire. Par contre, si elle est décédée, donc on a une question au sujet de ses biens et de sa ktouba, qu'est-ce qu'on en fait? Beth Shaman nous dit qu'on partage entre les héritiers de la femme et les héritiers du mari, c'est-à-dire le côté du Yavam, mais il nous dit que tout reste dans sa propriété à elle, c'est-à-dire que ça va être pour ses héritiers à elle, à part hein, la Ktouba et certains Nechassim, on l'expliquera plus dans la Gemara. Si jamais le Yavam s'est marié avec elle, elle est considérée comme sa femme à 100%, et la Ktouba, le Yavam ne sera pas Khayav, ça sera seulement les biens du défunt qui seront hypothéqués. Demande la Gemara quelle différence entre la Recha et la Sefa, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans la Recha, on la considère comme propriétaire de ses biens, et dans la Sefa, on a le Mechakel Beth Shammai Beth Hillel. On va voir pour cela quatre réponses. Oula nous donne une première réponse. Ça dépend quand est-ce qu'elle est venue Yevama. Si c'était quand elle était fiancée, alors son statut est encore plus allégé qu'une fiancée. Et si c'est quand elle était mariée, son statut est plus allégé qu'une mariée. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si j'avais dit qu'une fiancée, une fiancée qui tombe à Yevama est égale à une fiancée, comment est-ce que Beth Hillel permettre les Khatrila de vendre? Et là, forcément, c'est un statut qui est encore plus allégé. Et pareil pour le fait de la considérer comme une mariée allégée, parce que si je la considère comme une mariée à 100%, arrête tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, elle ne peut pas vendre les biens qu'elle a hérités quand elle était mariée. Donc la différence entre la Recha et la Sefa, ça dépend. Quand est-ce qu'elle est tombée en Yiboum? Demande Rabba, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que tu me parles d'un cas où elle est morte? C'est quand même de parler d'un cas où elle est vivante. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le mari a déjà des droits sur l'usufruit de ce terrain? Et la Rabba nous donne une autre explication. On parle dans les deux cas qu'elle était déjà mariée. Et donc maintenant qu'elle est en Yiboum, c'est vrai, c'est une mariée allégée, c'est-à-dire que la propriété du mari est beaucoup plus légère. Mais quand elle est vivante, c'est elle-même qui est en discussion. Et donc elle-même, elle a un argument vadaï, une certitude. Et donc c'est pour ça qu'elle s'affiche motim et vadaï, c'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle veut. Par contre, quand elle est décédée, c'est une marloquette entre les yorshim. C'est là qu'on a la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on considère que de toutes les façons, c'était comme si c'était à elle, et donc elle fait ce qu'elle veut, ou est-ce qu'on considère pas que c'est comme si elle, qu'on doit faire 50-50 comme avait dit Beth Shammai? Demande Abaye, d'après Beth Shammai, tu voudrais dire qu'un Safek Midevadaï, et pourtant il est marqué une maison qui s'est effondrée sur deux personnes, un père et un fils, et le fils devait de l'argent, mais il n'avait pas d'argent. Donc si le père est mort en premier, il a hérité, donc les créanciers peuvent être remboursés. Mais si il est mort en second, donc le père de cette personne-là est mort en premier, donc le fils avait de quoi rembourser, n'est-ce pas? Mais si c'est le fils qui est mort en premier, donc il est mort sans avoir de quoi rembourser, donc les héritiers du grand-père sont très contents. Et donc on a le marquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous dit, Yachloku Beth Hillel nous dit que ça reste dans la propriété des Yorshim du père, et donc ils ne vont rien rembourser du tout devant la Gemara. Pourtant ici, l'héritier est défini comme Vadaï, et les créanciers sont définis comme Safek. Et tu vois que Safek, Motim et des Vadaï, on voit qu'on peut ébranler la certitude. La Gemara nous dit, mais c'est différent ici, comme il y a un shtar, et que les créanciers vont récupérer leur dette, on considère qu'eux aussi sont une certitude, donc certitude pour certitude. C'est pour ça qu'on a 50-50, d'où je sais que quand il y a un shtar, on considère ça comme certitude, parce qu'il est marqué qu'une femme qui était sota, et qui devait boire au Beth Amidash, et son mari est décédé avant, marloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, elle peut prendre sa ktouba, mais d'après Beth Hillel, ou elle boit, ou elle prend sa ktouba. Ou elle ne prend pas sa ktouba, demande la Gemara, c'est-à-dire quoi, elle boit? C'est sûr qu'elle peut pas boire, puisque c'est son mari de l'amener au Beth Amidash. Et là, on parle de quoi? On te dit, puisqu'elle ne peut pas boire, elle ne peut pas prendre sa ktouba. Donc, Marloket, est-ce qu'elle récupère sa ktouba ou pas? Donc, la Gemara, comment se fait-il qu'elle récupère sa ktouba? Arrête, dans le cas où on a un safek, est-ce qu'elle a trompé son mari? Donc, il y a un safek, est-ce qu'elle a eu un rapport interdit ou pas? Ça fait que sur sa ketouba, entre elle et l'Eroshim, pourquoi est-ce qu'elle récupère quoi que ce soit? Et là, forcément, parce que Shtar, remet les gavotes et Yahoudamé. C'est-à-dire qu'on considère que si, c'est une certitude, et c'est pour ça que elle va récupérer cette ketouba. Dans la Gemara sur Abaye, pourquoi est-ce que Abaye, quand il a voulu poser la question à Abba, il est parti chercher une question de En Safek Matime Devadai, d'un héritage d'une maison qui s'était effondrée, etc., dans Maseret Nezikin. Pourquoi est-ce qu'il a parlé la Maseret Ktubot, qui est la Maseret Nashim? On parle de cette certitude face à un Safek. Il m'a dit, oui, mais dans quel cas tu parles de Sota? Là-bas, Sota, c'est une femme qui veut récupérer sa Ktuba. Peut-être dans sa Ktuba, on est plus permissif, puisque Mishum China Chachamim ont instauré qu'elle peut récupérer plus facilement sa Ktuba pour plaire aux femmes, pour que les maris puissent plaire aux femmes. On leur a donné plus de facilité pour récupérer leur Ktuba. Dans la Gemara, pourquoi est-ce qu'il ne pose pas la question de la Ktouba dans notre Mishnah? Arrête là-bas, on parle d'une femme qui est décédée. Et Abaye, et Beth Shammai avait dit hier le coup. La Gemara nous dit non, là-bas on ne parle pas. Beth Shammai, quand ils ont dit hier le coup, ils ne parlaient pas de ça, ils parlaient que des autres cas, c'est-à-dire sur les biens. Dans la Gemara, et pourtant, les Mishnah nous disent qu'est-ce qu'on fait pour la Ktouba, qu'est-ce qu'on fait pour le bien. Et on a une marque de Beth Shammai et Beth Hillel, répond la Gemara. La Gemara, le Mishnah dit qu'est-ce qu'on fait pour les deux. Mais au final, elle a répondu que qu'est-ce qu'on fait pour les biens, la marque de Beth Shammai et Beth Hillel. Mais au sujet de l'Octoba, tout le monde est d'accord. Rabashi nous dit, Bémet, c'est comme ça qu'il faut lire, puisqu'il y a marqué au sujet de l'Octoba que les Yorshim du Baal, du mari, vont hériter avec ceux du père, c'est-à-dire ceux du côté de la femme. Donc on voit que c'est les Yorshim du mari qui vont prendre une partie de ce qui reviendra à la femme, et non pas dans l'autre sens. Donc on voit que dans l'Octoba, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Yahlokoum. Troisième réponse, Abaye nous dit que la différence entre les deux cas, ça dépend quand est-ce qu'elle a hérité. Si elle a hérité quand elle était Shomeret Yavam, elle fait ce qu'elle veut, elle est propriétaire. Mais si elle a hérité quand elle était mariée, c'est là qu'il y a une différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, on considère que le mari avait plus de pouvoir, et c'est pour ça que quand il y a décès de cette femme-là, donc elle est considérée comme mariée allégée, donc c'est pour ça que c'est 50-50. Alors que d'après Beth Hillel, on considère que quand elle a hérité, quand elle était mariée, qu'ils étaient à égalité, et donc quand le mari décède, c'est un mariage allégé, c'est pour ça que la femme a plus de pouvoir. Aval, lui, n'est pas d'accord avec ça. Il te dit que si Bémet, quand elle a hérité au moment où elle était encore mariée, tout le monde est d'accord que c'est lui qui va tout hériter, comme que c'est lui qui va être, pardon, pas qui va tout hériter, qui vont être à égalité, puisque de son vivant, il a plus de pouvoir. Mais après son décès, c'est 50-50. La Marloket, elle est dans un cas où elle a hérité quand elle était Yevama, et il lui a fait un Mahamar. Est-ce que le Mahamar va lui donner cette capacité au mari d'avoir une propriété, donc c'est pour ça qu'il y aura 50-50, ou pas? Là, il y a la Marloket. Elle nous explique, la Gemara, que d'après Beth Shammai, le Mahamar, il a cette capacité de la rendre Vada Yerusha, et ça fait que Nessoa. Vada Yerusha, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme une Arusha à 100%, et donc elle va repousser la Tzara, qui est interdite. Mais ça fait que Nessoa pour le partage des biens. La Gemara nous ramène que Rabbi Elazar pense comme Rava, et Abaye, et pardon, et Rabbi aussi, Rabbi Chanina pense comme Abaye. Donc, la Gemara, comment est-ce que tu peux affirmer ça dans les paroles de Rabbi Elazar, sachant que Rabbi Elazar nous a dit que le Mahamar n'avait une capacité que de repousser la Tzara? Première explication, et pour, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas Rabbi Lazar qui va comme Rava, mais Rabbi aussi va Rabbi Chanina, et Rabbi Lazar va comme Abaye. Deuxième réponse, Rabbi Lazar serait d'accord avec Rava. C'est-à-dire, ce qu'il a voulu dire, que le Mahamar n'avait pas une grande capacité, c'était simplement pour exclure, et ne croit surtout pas qu'on peut se séparer de cette femme que par un guet, il faut aussi une Khalitza, mais il est aussi d'accord que le Mahamar a une capacité de lui donner une propriété sur ses biens, et c'est pour cela que il y aura, d'après Rava et Rabbi Lazar, dans les paroles de Beth Shammai, Yahlokou sur ces biens-là. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a vu plusieurs cas dans lesquels il y avait un désaccord sur l'héritage, et on avait vu qu'il y a des cas où on dit Mamon Amotel Besafek Rolkin, et un cas où on lui disait toi t'es notre frère, et lui disait non, moi je suis le fils de mon père, et donc tout le monde était d'accord que eux devaient recevoir 50%, lui devait recevoir un tiers, la Mahloket elle était sur le reste, et donc dans ce cas-là aussi on dit Mamon Amotel Besafek. On a une Mishnah qui vient avec deux enseignements qui se contredisent. Est-ce que les biens d'une femme, Yevama, sont les siens ou ceux de son mari, puisque Beth Shammai dit qu'il y a le coup. On a donné plusieurs explications. La première, c'est celle de Oula, ça dépend si elle était mariée à son premier mari ou si elle était simplement fiancée. La deuxième, c'est ça dépend si elle est vivante d'un rabat, ça dépend si elle est vivante ou si elle est décédée. Si elle est vivante, alors c'est En Safek Matine Devadai. Si elle est décédée, alors c'est 50-50 d'après Beth Shammai. La troisième, c'est Abaye qui nous dit que ça dépend quand est-ce qu'elle a hérité, est-ce que c'était chez son premier mari ou quand elle était Evama, si c'est chez son premier mari. Dans ce cas-là, Beth Shammai et Beth Hillel sont en marloquette, puisque d'après Beth Hillel, son koach à lui s'est affaibli, donc c'est elle qui aura tous les pouvoirs, donc elle héritera seule. Et d'après Beth Shammai, puisqu'il avait un grand pouvoir, c'est vrai qu'il s'est affaibli, c'est 50-50. D'après Rava, et la dernière explication, on ne parle pas de ça du tout, puisque lui pense que si elle a hérité quand elle était mariée, c'est sûr qu'il y aura 50-50 d'après tout le monde. On parle d'un cas où il y a eu un Mahamar, et le Mahamar va lui donner un certain statut. Est-ce que ça lui donne un certain pouvoir sur les biens ou pas? Là, il a marqué Beth Shammai et Beth Hillel. Le Dafik là-bas au Rocher, mais demain, les autres.